Alors je vais vous lire un psaume un peu difficile, le psaume 6 de la Bible, où David est manifestement dans une profonde détresse et sa prière, depuis quelques 3000 ans, nous aide à prier dans nos peines physiques, psychiques, sociales et dans nos combats. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur les 8 cordes, psaume de David. Ô Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, ô Éternel, car je meurs. Guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants, mon être est tout tremblant, et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta tendresse. Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi. Et qui te célébrerait dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mes draps, j'arrose mon lit de mes larmes. Mon œil est rongé par l'irritation, il est vieilli par tous mes oppresseurs. Écartez-vous de moi, disparaissez, vous tous qui commettez l'injustice. Car l'Éternel a entendu la voix de mes larmes. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et tous mes ennemis, saisis de honte, sont remués. Ils reviennent, soudain couverts de honte. Et puis je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, ces paroles qui sont pleines d'une confiance dans l'amour de Dieu. À partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit « à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère même comme des brebis qu'on égorge. Mais dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et pour laisser le temps à ces paroles de résonner dans nos cœurs, je vous propose de chanter dans le psautier français, toujours, le psaume 68b, en fait. B, c'est la version de Genève. Un psaume que les protestants appellent familièrement le psaume des batailles. Donc c'est le psaume 68b, les 3 strophes. Nous prions Dieu avec ces paroles de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller, à qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Dans sa détresse, David essaye tout pour essayer de convaincre Dieu de lui venir en aide. Alors il commence par la repentance au cas où Dieu aurait quelque chose à lui reprocher, on ne sait jamais. Il essaye ensuite de lui faire pitié en pleurant. Il essaye ensuite de flatter Dieu. Enfin, il essaye le chantage. « Si tu ne me sauves pas, ô mon Dieu, je meurs, et toi, ben, tu ne seras pas tellement plus avancé parce que les morts ne sont plus là pour chanter tes louanges. Tu as donc intérêt à me sauver, toi aussi. » Alors les plus grands spécialistes de la prière diront peut-être que ça ne se fait pas, qu'on ne prie pas ainsi. Pas de menaces, pas de flatterie, pas de chantage, pas de misérabilisme, pas de fausse modestie, ni avec Dieu, ni avec personne d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas une façon d'entrer en relation. Et pourtant, ce psaume 6 est bien dans la Bible et il montre que David est exaucé à la fin de cette prière par Dieu qui vient à son aide. Alors donc, n'hésitons pas à prier, même si notre prière était toute de travers. Il conviendrait d'autant plus de prier à ce moment-là, car prier, c'est comme ouvrir la porte au médecin de notre âme, nous dit David. Il en a bien conscience, il dit « Fais-moi grâce, guéris-moi, Éternel ». Et puis au milieu, son souffle est comme étranglé. Il n'arrive même pas à finir cette plainte. « Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Il ne dit pas la suite, ce qui se termine, qui se est comme étouffé dans un sanglot. Mais il constatera bientôt que Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et Claudel, qui a traduit donc les psaumes, donne cette traduction de la fin du psaume 6. « Le Seigneur a entendu la voix tout bas de mes pleurs. Ô miséricorde divine à la rencontre de mon désespoir, il a pris dans ses mains ma prière pour la respirer. » Alors oui, son souffle à David, sa prière était mourante. Sa théologie aussi vacille, diront peut-être les théologiens quand ils entendent dire à David que les morts sont dans le néant. La théologie chrétienne traditionnelle affirme qu'au contraire, les morts sont au ciel, ils chantent plus que jamais les louanges de Dieu et qu'ils sont même accompagnés de toute une légion d'anges, peut-être avec des cuivres ou alors chantant ou avec des harpes, on ne sait bien exactement. Et donc, qui a raison, David ou le courant majoritaire du christianisme parlant de vie après la mort? Personnellement, je pense qu'il y a une vie personnelle, individuelle, qui continue au-delà de la mort du corps. Mais en vérité, personne n'en sait absolument rien, bien sûr. Et personne ne peut même imaginer comment est-ce que nous pourrions vivre au-delà de la mort de notre corps. Et donc nous verrons bien quand nous y serons, c'est une question pour un autre temps. David a en tout cas raison sur ce point, nous ici, nous n'entendons plus la voix de ceux qui sont morts. À moins que les vivants en ce monde fassent entendre effectivement leur voix. Et donc c'est là que c'est essentiel de faire mémoire des morts. Car si une personne, si un peuple ne prie plus, il a comme perdu son souffle. Et une personne, un peuple, une humanité sans mémoire des morts a comme perdu son ossature. Et son être est tout tremblant, le dit David, comme un flamby finalement. Il est même comme de l'eau versée dans le sable. Alors éprouvé, David ressent tout d'un coup ce qu'est la mort. Il ressent une vraie peur de mourir, de cette sorte de perte dans ce qui peut nous sembler le néant. Et ce qui le bouleverse n'est pas tant de quitter ce monde et cette joie qu'il y a d'habiter dans ce monde, parce qu'il semble de toute façon, à ce moment de sa prière, qu'il a déjà perdu toute joie de vivre en ce monde. Mais ce qu'il ressent, c'est l'incroyable gâchis de la mort, faisant perdre à ce monde, faisant perdre aux vivants en ce monde, la louange de ceux que l'on n'entend plus. Frémissement, détresse devant cette inimaginable perte de ces voix éteintes, de ces louanges à la beauté de la vie, de ces louanges à Dieu. Gâchis de voir se perdre la mémoire d'engagement, de gestes vrais, d'amour, de paroles qui ont peut-être rendu la vie plus belle, qui ont rendu la vie possible, qui ont soulagé des peines, qui ont libéré des opprimés, qui ont donné souffle à celui qui en manquait, qui ont donné une ossature, une colonne vertébrale à un peuple, à une nation, à une humanité. Alors David apparemment repasse dans sa mémoire des êtres chers dont la voix s'est éteinte. Alors que parfois la mémoire d'un tout petit geste qui nous a frappés, peut-être quand nous étions petits dans l'enfance, suffit à nous faire reprendre pied, suffit à nous grandir, à nous rendre meilleurs, à nous guérir de quelque chose qui nous tuait. Il peut y avoir ainsi dans la mémoire une incroyable beauté, une prodigieuse fécondité de vie qui fait des miracles. Car qu'est-ce que la louange ? Littéralement en hébreu, c'est prendre en main un événement du passé. Prendre en main ce qui a été pour nous un germe d'évolution, de guérison, de réconciliation, de construction. Prendre en main ce qui a été de l'ordre de l'action divine, créatrice, découverte, dénichée dans l'action, dans la parole de quelqu'un, d'une personne. Alors c'est vrai qu'une personne morte ne parle plus et n'agit plus en ce monde, à moins que la mémoire la fasse vivre. Mais par la mémoire, il est encore possible de prendre en main quelque chose de cette personne qui peut être encore, et maintenant et toujours, source de vie en ce monde. Et alors, par notre mémoire, oui, les morts peuvent encore faire la louange à Dieu et peuvent encore élever la vie. Alors bien sûr, il y a un travail à effectuer pour que cette mémoire soit effectivement source de vie. La Bible parle de ce travail de façon imagée. Elle en parle souvent à travers l'image de moisson ou de vendange. Moisson qui va être suivie par le vannage du blé pour ne garder que le bon grain et éliminer la paille. Ou vendange qui est suivie par le pressage des grappes pour ne garder que le bon jus et éliminer le mou. Vient ensuite l'image de la fermentation pour donner ce qui est alors source de nourrissement par le pain de vie et mise en joie de notre être par le vin de la vie éternelle. Il y a ainsi deux étapes essentielles dans ce travail de mémoire pour que les morts soient encore source d'un dynamisme créateur divin. La première est une étape de large récolte, de moisson, de vendange pour ensuite faire le tri. Ce travail demande de la lucidité et de l'amour délibérément. Et c'est à l'image du jugement de Dieu, ce que David appelle ici la grâce de Dieu et sa tendresse, pour garder le meilleur sans se laisser contaminer par le moins bon. Alors pour cette étape, nous avons des outils, nous avons la théologie, la philosophie, le bon sens et le cœur. Et puis nous avons aussi le débat entre nous, et nous avons la prière qui est débat avec Dieu pour laisser Dieu élever notre regard et peut-être aussi se sentir moins mis en danger dans cette plongée dans la mémoire, si mêlée, si mélangée. Alors la seconde étape de ce travail de mémoire est plus mystérieuse encore. Elle est de l'ordre de la fermentation, quelque chose d'invisible qui travaille en profondeur cette mémoire, reprenant le meilleur sélectionné dans la première étape et le transformant en une nourriture délicieuse, bienfaisante et réjouissante. Alors ce travail de fermentation est une image pour un travail proprement divin du souffle de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail qui se fait dans la prière pour que Dieu lui-même insuffle cet esprit qui fera lever la pâte et qui transformera le grain de mémoire, en pain de vie. Alors notre être, même tout tremblant et ayant perdu son souffle, ayant perdu son ossature, pourra reprendre force. Et nous en avons bien besoin, évidemment, et la détresse de David évoque pour nous bien des détresses. Détresse présente, sans que nous ayons à nous forcer à imaginer ce que ça peut être. Notre détresse, aussi celle de nos proches, détresse de notre pays, celle de notre humanité, celle de notre Église, celle de nos religions. Alors, comme le reconnaît David, notre détresse présente est parfois, ou en partie, conséquence de notre propre faute, faute individuelle ou faute collective, par nos actions ou par nos manques d'engagement ou par nos engagements à tort et à travers peut-être. David voit dans ses ennuis une possible punition de Dieu, mais certainement pas, évidemment, car Dieu, nous le savons en Christ, n'est par définition même que source de vie et de bonté, jamais source de souffrance, de mort, de malheur pour qui que ce soit. Mais c'est la vie qui nous fait souvent payer cash nos erreurs. Alors comment les éviter, ces erreurs ? Nous ne sommes que des enfants. Et c'est vrai que notre vie est si courte que nous ne pouvons pas prendre le temps de faire toutes les erreurs pour en apprendre quelque chose. Et essayer toutes les bonnes choses afin de les répéter, de les mettre, de les privilégier. Et d'avoir ainsi par nous-mêmes une pleine expérience de la vie. Alors pour avancer, pour grandir, pour apprendre, nous avons absolument besoin de l'expérience des autres peuples, des autres cultures, des autres personnes, mais surtout ce trésor immense des générations et des civilisations passées. Car la distance elle-même de ce que donne le temps nous aide à avoir le recul nécessaire pour apprendre la vie. Alors que ce regard sur les vivants qui sont avec nous et cette mémoire de nos morts soit ainsi transformée en louange, nous permettant donc de prendre en main les germes de vie divine qu'ils recèlent et que cela nous libère pour vivre et pour vivre en étant source de vie un peu plus. C'est donc un travail de mémoire bienveillante et spirituelle que nous pouvons faire. Et ce travail décuple, ce travail fait caisse de résonance pour tout ce qui est source de vie et écarte, comme le propose David, écarte ce qui est source d'injustice. Alors oui, à travers nous, à travers un monde qui se portera mieux, les vivants et les morts célébreront encore la source de vie, l'Éternel. Mais pour que ce soit vrai, l'en-tête de ce psaume sur lequel on a tendance à passer trop vite nous donne de précieuses indications comme un mode d'emploi finalement. Ce psaume nous permet d'être vainqueurs, nous dit cet en-tête. Il a pour but de nous amener à l'accomplissement. C'est ce que dit par exemple la traduction qui date de moins 300, qu'on appelle la Bible des Septante, qui traduit ce « pour le chef de chantre » en « Eistotelos », c'est-à-dire pour l'accomplissement ou pour le vainqueur, avec l'aide de Dieu. Mais alors, pour que ce soit vraiment pour l'accomplissement que nous avons ce travail proposé par ce psaume, il faut pour cela, nous dit l'en-tête, jouer la musique de ce psaume sur les 8 cordes. Alors, précieuse indication, peut-être bien plus mystérieuse pour nous aujourd'hui que pour les lecteurs de l'époque habitués à cette symbolique. Par exemple, tous savaient, à l'époque, pourquoi les garçons devaient être circoncis le huitième jour exactement, et que ce jour était si important qu'il primait même sur le caractère sacré du Shabbat, le septième jour. Car en effet, le 6 évoque le monde matériel, si l'on suit la Genèse. Le monde matériel est donc notre corps. Le 7, il évoque la bénédiction de ce monde matériel par Dieu, et donc l'effort de mettre nos moyens et nos forces au service du spirituel pour qu'il devienne une bénédiction en ce monde. Et le Shabbat est cet exercice qui permet cela, qui travaille là-dessus. Alors le 8, il évoque la sortie de ce monde matériel, l'accès à la transcendance, à la mystique, à la contemplation de Dieu, aux purs idéaux, si vous voulez. Alors pour avancer vers le but, la tentation est forte de n'agir que sur le plan matériel. Ce ne serait joué que sur les 6 premières cordes. L'action en ce monde se fait alors par la seule solidarité humaine, par de beaux projets de construction et par la lutte contre les méchants, les catastrophes, l'injustice. Et c'est très bien, il faut le faire bien entendu, mais ça ne suffit pas et cela ne permet pas d'être vainqueur, ne permet pas d'aller à l'accomplissement, même si c'est pétri de bonnes intentions. C'est ainsi que bien des victoires matérielles, militaires, sociales, éducatives se sont transformées en de vraies catastrophes, comme tous ces traités de Versailles, ces bombardements de Dresde ou d'Hiroshima, ces victoires sur la barbarie de Saddam Hussein, de Kadhafi. Combien de plans banlieues à coups de milliards, de réformes de l'enseignement, d'investissements réussis se révèlent terriblement destructeurs à l'avenir. Alors pour avancer vers le but, il faut jouer aussi de la 7e corde, ajouter du spirituel, de la bénédiction, de la prière, du levain dans la pâte de ce monde, de nos projets. Et c'est d'autant plus indispensable que l'on croit devoir agir activement dans ce monde. Et donc oui, faire place à une dimension spirituelle dans nos projets, jouer aussi sur la 7e corde. Faire de notre travail de mémoire une œuvre bienveillante, intelligente, mais aussi spirituelle, dans la méditation, dans la prière. Alors on ne peut pas vouloir que le monde entier, toutes les personnes individuelles soient croyantes, bien sûr, et c'est pour ça que cette 7e corde, c'est la mission particulière de chaque croyant, de chaque religion, pour que la société puisse recevoir ce service. C'est un service des croyants qu'il peut rendre à sa famille, à son peuple, à l'humanité. Mais jouer sur cette corde est encore travailler dans le monde. C'est encore avoir le monde pour viser, même au travers du spirituel, et donc il faut jouer sur les 8 cordes, nous dit ce psaume de David. Alors jouer de la 8e corde, c'est comme chanter la louange de Dieu, le contempler, pas seulement pour trouver l'action juste, mais le prier pour le seul bonheur de l'aimer, d'être avec lui ou de l'espérer, pour la seule joie de se souvenir peut-être de ce qu'il nous a déjà donné comme accomplissement à l'intérieur de nous-mêmes ou dans ce monde ou dans notre histoire. C'est si profond et si vrai d'être dans cette contemplation pure et désintéressée de Dieu qu'il y a toujours eu dans l'humanité la tentation de se retirer du monde pour ne plus que jouer que l'intégrale des sonates pour la 8e corde seule. Alors c'est sympa, mais ça ne mène pas à l'accomplissement, ça ne rend pas vainqueur de l'asthénie du souffle, ni de l'ébranlement de notre ossature. Pour cela, il faut jouer sur les 8 cordes, nous dit David, sans en négliger aucune. Jouant sur les 8 cordes, notre existence, elle peut alors reprendre souffle, inspirant et expirant un souffle de vie, souffle peut-être puisé dans la mémoire de nos chers disparus. Il peut alors surgir de notre mémoire, oui, le chant des louanges de tout ce qu'il y a de créateur dans nos héros, présents et passés, anonymes ou célèbres. Alors l'Éternel peut faire quelque chose aussi de nos vraies larmes, qui ne sont plus seulement des larmes de crocodile. Et puis ces ennemis que nous désespérions de voir écrabouillés, nous les voyons subitement prendre conscience de ce qu'ils font et en être remués. Et se réformer tout à fait, nous dit David, et c'est bien là un miracle de Dieu. Alors même nos maladies, nos catastrophes, nos échecs et notre peur, tous ces ennemis intérieurs, peuvent se convertir en élan de bonté et de joie de vivre, élan de service et de louange. Alors là, oui, nous serons vainqueurs et nous pourrons chanter la louange de celui qui, toujours, génération après génération, fait des miracles. Amen.